Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
Évidemment, 18h40, on va défaire le monde maintenant avec Cyprien Cini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info autrement, comme chaque soir, jusqu'à 19h. Le menu, Cyprien.
Ce soir, on défait le match dans On défait le monde. PSG Manchester City, Qatar contre Émirats Arabes Unis. Après plus de 10 ans de soft power, vous découvrirez qui a pris l'avantage sur le terrain de la géopolitique. Au menu également, des maires en colère, Ségolène Royal en colère aussi, et on calmera tout le monde avec des douches solidaires. On défait le monde la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et c'est parti avec le son du jour.
De cette deuxième journée de Ligue des Champions, PSG Manchester City, le club détenu par le Qatar face à celui d'Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Deux pays qui depuis des années maintenant pratiquent ce qu'en langage diplomatique ou géopolitique on appelle le soft power.
Comprenez, une méthode où l'on multiplie les investissements dans le sport, la culture, l'immobilier ou encore la finance pour entrer sur la scène diplomatique. Pour ces pays, il s'agit de préparer l'avenir.
Oui, car on le rappelle, le Qatar vide ses ressources de gaz et les Émirats Arabes Unis baignent dans les pétrodollars. Sauf que le gaz et le pétrole, un jour ou l'autre, il n'y en aura plus.
Alors après avoir vu les rivaux dépenser des milliards et des milliards de dollars, et avant le match de ce soir qui les oppose symboliquement, on s'est demandé qui aujourd'hui menait au score du soft power.
On a donc appelé Frédéric Ancel, il est géopolitologue, auteur notamment de l'Atlas des frontières aux éditions Autrement. Et alors selon lui, dans la course au soft power, il n'y a pas photo, avantage, Manchester City, enfin Abu Dhabi.
Les Émirats sont plus puissants parce que le Qatar en réalité n'a que du gaz naturel et de l'influence médiatique, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est tout. Les Émirats Arabes Unis, eux, disposent de cela et entretiennent tout cela. Mais en plus, on a vu au Yémen qu'ils savaient faire la guerre. Les Émirats mettent moins leurs œufs dans le même panier. Je veux dire par là qu'ils ont beaucoup investi aux États-Unis. Ils investissent en Asie. Sur du long terme et dans des tendances lourdes, je suis tout à fait convaincu que les Émirats Arabes Unis sont, bien sûr, et seront une puissance beaucoup plus importante que le Qatar.
Donc net avantage aux Émirats Arabes Unis. C'est assez étrange parce que vu d'ici, vu de France, on a quand même l'impression que le Qatar investit beaucoup.
Oui, alors c'est pas le même type d'investissement en fait, parce que selon Frédéric Ancel, au Qatar, il y a une obsession de l'image à régler, et ça, comme investissement, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, vous allez comprendre.
Nous, on a un double prisme déformant, parce que en France, on voit le Qatar qui investit dans pas mal de domaines, mais fondamentalement, ce ne sont pas des secteurs très lucratifs. On est davantage pour la France sur de l'image, pour le luxe, pour alors occasionnellement pour le sport, pour le bien-être, le vin, etc. L'une des variables de leur prise de décision, c'est effectivement sans aucun doute pour équilibrer, voire même peut-être sinon effacer, en tout cas édulcorer cette image néanmoins très juste de pays trublion qui soutient des groupes et des régimes absolument pas fréquentables.
Donc avant le match de ce soir, 1-0 pour les Émirats face au Qatar.
Oui, alors finalement, à écouter Frédéric Ancel, cette géopolitique du football, bon, c'est quand même un peu pour amuser la galerie.
Le sport, en réalité, dès qu'on revient aux choses sérieuses sur les tapis verts des diplomates ou a fortiori sur les champs de manœuvre, je veux dire que ça passe loin derrière. D'autre part, même sur le plan financier, en réalité, ce qui relève du sport, même si des contrats sont mirifiques sur des joueurs ou sur des publicités, fondamentalement, par rapport au prix d'un F-15 ou d'un Rafale, si vous voulez, très rapidement, là, bon, ça passe au second plan. Je rappelle quand même que les Émirats Arabes Unis, outre d'abriter une base stratégique française, la plus importante de la région, avec l'Arabie Saoudite et Bahreïn, a établi il y a plusieurs années de cela un blocus naval. On était quasiment en guerre quand même, vous voyez. Et donc la France, mais pour les choses sérieuses, quoi, dans la grande géopolitique, la France choisit son camp et c'est celui des Émirats.
Bon, pour les choses un peu moins sérieuses, résultat en fin de soirée, PSG City à vivre dès 20h40 sur RTL.
RTL, sous les radars.
Tous les soirs, dans On défait le monde, une info dont vous n'avez pas entendu parler.
Oui, et celle-là, elle ne devrait pas rester sous les radars longtemps, car figurez-vous que la révolte gronde chez les élus locaux, Laurent.
Oui, car en 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Des élus craignent que la compensation de l'État diminue dans les années à venir, qu'il y ait une baisse des dotations. Mmh. Et jeudi dernier, ils étaient une centaine réunis à la mairie de Paris. Des élus locaux de tous bords politiques venus de toute la France à l'invitation de l'association France Urbaine. Une petite musique est revenue dans dans les échanges une idée, la création d'un nouvel impôt. Oh. Philippe Laurent, le maire UDI de la ville de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France, a lancé entre autres sa proposition d'un impôt local sur le revenu.
Cet impôt, c'est simplement un taux additionnel au taux actuel de l'impôt sur le revenu. Ce serait certainement un taux qui serait assez faible, hein, naturellement. Hein. Ça peut représenter peut-être quelques euros, quelques dizaines d'euros par an.
Autre proposition faite lors de ces échanges, celle de Nicolas Bonnet-Houladge, président du groupe communiste au Conseil de Paris.
Sur la taxe d'habitation, aujourd'hui, elle n'est plus payée par 80% des Français, mais 20% des plus riches continuent à la payer, et il est question qu'ils ne la payent plus d'ici un an. Moi, je pense qu'il faut la maintenir sur les 20% les plus riches, par exemple.
La question de la fiscalité qui sera sans aucun doute au cœur de la campagne présidentielle.
On risque d'en parler un petit peu, effectivement. Une petite pause, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Nous allons parler don du sang. D'ailleurs, allez donner parce qu'en ce moment, on a vraiment besoin de vous.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, bonne fin de journée. RTL Soir vous accompagne. On continue de défaire le monde jusqu'à 19h. Vous l'attendiez, la voici, la première info pour briller tout à l'heure au dîner.
Et alors que les réserves de sang sont au plus bas et qu'un appel aux dons a été lancé, Arthur, vous nous racontez l'histoire assez rocambolesque de la première transfusion sanguine.
Rocambolesque, oui, parce qu'on a pas mal tâtonné. À la fin du XVIIe siècle, un médecin français a même transfusé du sang de veau à l'homme. Résultat, le patient est mort.
Ah bah oui.
Donc la transfusion a
bien
été
essayé quand même.
Formellement interdite. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on va assister à de vrais progrès. Albert Hustin, un médecin belge, va réaliser la première transfusion via une poche de sang en 1914. Il a eu la bonne idée d'ajouter au sang du citrate de soude, un anticoagulant, ce qui permettait de le conserver 4 jours. À partir de là, on a compris qu'on pouvait faire des réserves transfusables, pratiques, au moment où la Première Guerre mondiale éclate. Mais l'innovation mettra quelques années avant d'être adoptée.
Incroyable cette histoire du sang de veau, là. C'est fou, ça.
Ouais, c'est bizarre d'avoir essayé avec du sang de veau.
C'est quand même très bizarre d'avoir eu cette idée, quand même.
On ne le fait plus depuis.
Très bien. Oui, bah. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Merci beaucoup, Arthur.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Et c'est l'heure du jugement. Chaque soir à 7h06, Céline Landreau désigne le winner ou le loser du soir.
Et ce soir, on sort même la musique. Hein. Baby, I'm a loser. Oui, car Céline, ça devient une habituée cette rubrique-là. À deux doigts de lui offrir une carte de fidélité, Ségolène Royal.
Oui, alors je vous connais, vous allez me dire que c'est de l'acharnement. Pourtant, non, je vous assure. D'ailleurs, hier, j'avais choisi de pas vous parler de...
L'échec cuisant de Ségolène Royal.
Sèchement battue hier au sénatorial.
L'ancienne ministre socialiste n'a recueilli que 2% des voix.
11 voix. 11 voix sur 534.
Voilà, je m'étais dit que c'était pas la peine d'insister.
Bah oui.
Et puis ce matin, l'ancienne ministre était l'invitée des 4 vérités sur France 2. Et là... on a découvert qu'elle ne voulait rien lâcher, mais rien. Et quand on lui parle de la prochaine présidentielle...
Je n'exclus rien.
Toujours dans le game, comme on dit. Pas question d'abandonner.
Puisque le PS me rend ma liberté, eh bien, si je considère que dans le débat politique, il faut représenter différemment les choses et rassembler différemment, je n'exclus rien.
Ce qui est vrai, c'est qu'elle est très agacée contre la direction du PS, Ségolène Royal, le parti qui avait choisi de ne pas l'investir pour cette élection sénatoriale. Et ça, elle ne l'a pas digéré, morceau choisi.
Quant au dernier moment, l'appareil du PS parachute un candidat, le jour de la clôture, sans même m'appeler, moi je l'ai appris par la presse.
Le PS vous a fait battre.
Bien sûr, oui, le PS m'a fait battre. Je pense que ma liberté les dérange.
Ah. Une femme qui dérange un parti qui pourtant lui doit beaucoup.
J'ai conduit ce parti au second tour d'une présidentielle sans lequel il aurait disparu.
Ah oui, Ségolène Royal, sauveuse d'un parti qui ne lui rend pas et qui en profite d'ailleurs pour lancer un message pas du tout subliminal aux électeurs écolos. On en a parlé, ils viennent de choisir leur candidat, Yannick Jadot, vainqueur d'une courte tête devant Sandrine Rousseau après une primaire qui a vu s'opposer deux lignes très différentes. Eh bien, Ségolène Royal a la solution pour rassembler tout le monde.
Il y a deux options dans l'écologie, effectivement. Il y a l'écologie radicale, puis l'écologie de la transition. Moi, je ferai la synthèse entre les deux. Et moi, je suis pour l'écologie intégrale.
Et tout ça incroyable. A déjà un petit parfum de début de campagne. Alors, qui sait, préparez-vous peut-être à réentendre ce genre de chanson dans les mois à venir.
Celle-là, j'avais oublié cette chanson.
Vintage.
Allez, vous avez très bonnes archives, Céline. Bah, peut-être qu'elle sera effectivement remise au jour. On a combien ? Plus d'une trentaine de candidats déjà à l'élection présidentielle. Ouais. Un de plus, un de moins. Allez, on marque une petite pause et dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. On va décrypter la musique de la Ligue des Champions qui va résonner tout à l'heure au Parc des Princes.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h55 minutes, encore 5 minutes de plaisir. On continue de défaire le monde avec la bande et voici une nouvelle info pour briller tout à l'heure au dîner.
Elle était en sport études foot, elle adore le foot et elle veut nous parler de foot, c'est Céline Landreau.
Oui, je voulais revenir sur le son du jour qu'on a écouté au tout début de l'émission, l'hymne de la Ligue des Champions. Cet air composé par Tony Britton qui donne des frissons à tous les passionnés de ballon rond. Mais est-ce que vous avez déjà écouté les paroles écrites? Oui, c'est ça, écrites en trois langues, les trois langues officielles de l'UEFA, l'anglais, l'allemand, le français. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit trilingue autour de la table. En fait, j'en suis sûre parce que moi-même, je ne parle pas allemand.
Si vous ne l'êtes pas.
Je vous propose donc une petite traduction. Vous allez voir tout de suite, c'est un peu moins magique. Donc là, c'était le français, ils sont les meilleurs. Et puis ça continue en allemand, en anglais. Ils sont les meilleurs, ce sont les champions, les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions.
C'est grotesque.
Voilà. Et ça continue.
On dirait une chanson DL5.
On va pas se mentir pour l'émotion. Heureusement que la musique couvre un peu les paroles.
Ah oui, c'est grotesque.
Très bien. Bon, en tout cas, on a toujours hâte d'entendre résonner cette musique dans les stades. Ce sera le cas au Parc des Princes ce soir. Je choisis cette info pour vous,
merci,
Céline,
Julien.
Parce que je la trouve particulièrement.
Vous ne l'avez pas entendue depuis longtemps, peut-être aussi à Marseille. Oh, ce tacle!
Oh là là, le tacle par derrière.
Je me solidarise de Julien.
Carton rouge, Laurent. Jingle.
Marche ou rêve?
Eh oui, tous les soirs, on vous passe un coup de fil, on met en valeur vos projets et celui-ci, il mérite toutes les lumières.
Oui, ce soir, Laurent, une initiative qui nous redonne un peu foi en l'humanité.
Oui, c'est un concept qui a fait son apparition à Bordeaux fin juillet, un conteneur maritime avec à l'intérieur des douches pour les personnes fragiles, sans domicile fixe, une solidarité qui leur permet de subvenir chaque semaine à leurs besoins en matière d'hygiène. Et ces douches solidaires ont été développées par l'association Bubble Box. Son président, Pierre, est en ligne avec nous. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
L'idée a vu le jour en 2017 lorsque vous étiez étudiant à Sciences Po. Quel a été le déclic?
Effectivement, en 2017, j'ai eu le plaisir de participer à un programme d'été dédié à l'innovation sociale qui était co-organisé entre l'Université de Harvard, de Sciences Po Paris et le Centre de Recherche Interdisciplinaire de la Ville de Paris. On avait pour but de régler des problèmes sociaux en proposant des projets d'innovation sociale. Et donc, moi qui vis dans le nord de Paris, j'ai décidé d'amener mes camarades étudiants Porte de la Chapelle pour voir le dispositif fantastique qui avait été mis en place autour de la bulle, le centre d'accueil humanitaire qui avait été organisé donc Porte de la Chapelle, mais également le campement improvisé qui s'était constitué autour de personnes migrantes et de réfugiés. Au total, en juillet, la police estimait qu'il y avait 2771 personnes sur place, et ces 2771 êtres humains, pour seul point d'accès à l'eau, avaient 4 robinets. Il y avait un énorme manque d'accès à l'hygiène et donc on a décidé de se saisir de ce problème-là et de proposer Bubble Box.
Et racontez-nous, ces douches, elles ressemblent à quoi? Ce sont des douches de piscine dans un conteneur, c'est ça?
À peu près, oui. On a fait le choix d'aller chercher des fournisseurs qui fournissent également les douches, les vestiaires pour les collectivités, parce que on veut que les personnes les plus démunies puissent avoir accès aux mêmes qualités de douches que n'importe qui. Donc c'est effectivement 3 cabines de douche dans un espace accessible au public et un espace technique dans lequel on va avoir toute la partie chauffe-eau, mais également bientôt une partie filtration qui va nous permettre de devenir presque autonome en termes de consommation d'eau.
Et à Bordeaux, par exemple, combien de personnes prennent leur douche, je ne sais pas, chaque semaine, grâce à votre système?
Alors, après un mois de fonctionnement, on a déjà plus de 150 personnes qui sont venues prendre des douches dans le module.
Et ces douches sont accessibles toute la semaine, à des horaires bien précis?
Donc, on a la chance à Bordeaux d'être accompagné par l'unité locale de la Croix-Rouge, par la ville de Bordeaux et par le groupement d'intérêt public Bordeaux Métropole Médiation. C'est donc ces personnes-là qui s'occupent de la gestion au jour le jour du module, et ils assurent l'ouverture du module un jour sur deux par fenêtre de 3 heures, le matin ou l'après-midi. Et le samedi matin et après-midi grâce aux bénévoles de la Croix-Rouge.
Alors justement, là, vous êtes présent à Bordeaux. L'idée, c'est aussi d'essaimer dans d'autres villes?
Absolument. Pour l'instant, on n'a qu'un seul module. C'est le tout premier. On a déjà été sollicité par plusieurs municipalités avec lesquelles on dialogue en ce moment même. D'ailleurs, si des municipalités nous écoutent et qu'elles font face à ce genre de problème, voilà, on est ravis de pouvoir entamer le dialogue avec eux. Et on est en train d'envisager la construction d'un deuxième module d'ici la fin de l'année.
Eh bien, l'appel est lancé. Bravo Pierre, des douches solidaires à Bordeaux. C'est le concept de l'association Bubble Box. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci Pierre. Et merci à vous, les amis dont défait le monde. C'est l'heure de se quitter, mais on se retrouve demain, même endroit, 18h40 dans RTL Soir, à demain.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.